De la maternelle, aussitôt baptisée, Loulou fut les premiers jours accablée des attentions multiples et désordonnées de la plupart des enfants. Renfrogné, peu avenant, voire agressif, il eut tôt fait de décourager son monde à la seule exception d'Éric, qui, matin et soir, sans faillir, lui prodigua pendant des mois boissons et nourritures mises à disposition par l'école et se soucia de l'état de propreté de la cage spacieuse léguée par la concierge, abîmée dans l'inconsolable deuil de son perroquet. La mort brutale de Loulou, que l'on trouva raide sur sa litière un matin de mai, laissa Éric désemparé comme vacant, mais il ne pleura pas devant les autres et s'inquiéta seulement de savoir ce qu'il adviendrait du corps. La classe enterra Loulou boudiné dans un étui de papier crépon bleu confectionné à grand renfort de scotch par la maîtresse pressée de dissimuler le cadavre. Éric fut désigné pour déposer la chose dans le trou creusé au fond de l'enclos gazonné joutant les cours de récréation. Il s'acquitta de sa tâche, furtif et compassé. Ensuite, au moment du goûter, il dit à sa grand-mère que Loulou était tout dur à travers le papier. Il l'avait senti et qu'il aurait bien voulu le voir, juste pour vérifier si ses yeux étaient fermés. Annette aimait à se souvenir de l'une des rares occasions où Éric s'était distingué à l'école. Elle n'en parlait pas devant lui, tant il rougissait, secouait la tête et rentrait en lui-même, comme si cette image de l'enfance encore si proche lui eût été insupportable. À la fin du C, à une question du maître qui avait demandé aux élèves d'écrire en un seul mot précédé du verbe faire ce qu'ils voulaient devenir plus tard, il avait répondu de son écriture lente et ronde, heureux, faire heureux, toute l'école s'était régalée de ce mot. Annette et sa mère avaient été fières et rassérénées peut-être de deviner, derrière les silences d'Éric, désir, douceur et confiance mêlées, nouées, pas éradiquées ni ravagées encore, en dépit du pat des astres paternels. Paul avait aimé cette histoire. Ce gamin ne faisait pas de bruit, ne tenait guéreux de place, mais, et de citer l'exemple de Lola, il savait se comporter avec les bêtes et dans la vie. Faire les courses avait été la première tâche d'Annette. Le camion du père l'aimait passait deux fois par semaine vers 9h ou 9h05 au plus tard, et se garait au bout du chemin où se rassemblaient sous son auvent le Germain, veuf mutique, et les antiques Duval, mère et fille, maigre et fidèle quatuor des permanents de Fridière. Les autres, les intermittents estivaux, de plus en plus nombreux, se souciant fort peu de ce rituel exotique et trop matinal. Au camion, on trouverait le pain et, en cas de besoin, des articles d'épicerie élémentaire, austère, voire éthique. Le père Lamay, sanglé dans sa blouse immuable et parfaitement averti par la vox populi, ne fit aucun commentaire en découvrant un mardi de juillet cette cliente munie d'un filet vert à brosse maille. Belle-sœur à la mode nouvelle de la Nicole, qui, empressée des potrons minets auprès de ses vieillards, avait pris l'habitude de s'arrêter au magasin où sa conversation échevelée faisait les délices de Madame Lamay, frénétique cancanière, accablée depuis près de 40 ans par l'implacable discrétion de son mari. La cause du pain étant entendue, pour le reste, tout le reste, Paul avait prévenu, il ne faudrait pas quémander auprès de Nicole le conseil le plus anodin, ni compter sur elle pour savoir où se procurer au meilleur prix l'huile, la viande, le café, les apéritifs, la lessive, les fruits de saison, tout mystère dont Paul n'était pas instruit, faute d'avoir jamais eu à se pencher sur la question des provisions qui relevaient de la sœur. Nicole, sourdement entêtée, ne lâcherait rien. L'autre, l'usurpatrice, n'avait qu'à s'arranger seule. Elle avait voulu le frère, elle le nourrirait, on verrait le résultat, qui ne manquerait pas d'être faramineux, en haut, dans la cuisine américaine, tandis que les Gaulois, cantonnés en bas, resteraient abonnés, pour le gros pauvre, aux surgelés livrés à domicile, le premier et le troisième jeudi du mois, par un avantageux quadragénaire sans florin. On parla d'argent. Annette disposerait par mois d'une certaine somme pour couvrir les besoins de la maison. Elle savait compter, acheter au plus serré, accommoder les restes, et ne plaignait ni sa peine ni son temps pour réduire ou éviter les dépenses. On était faible, économiquement faible, écrasé, précaire et condamné à le rester, à chercher l'abri, la niche, à ne pas avoir confiance. Pour Éric seul, Annette et sa mère nourrissaient des espoirs, économisaient des riens qui, joints à d'autres riens patients, permettraient de payer le voyage scolaire annuel et l'encyclopédie illustrée, et l'an quatrième ou en troisième, l'ordinateur. Éric serait comme tout le monde, aurait ce qu'il faut, et il étudierait assez pour échapper, plus tard, aux mâchoires de fer des seules dépenses incompressibles et à l'étau des fins de mois qui commencent le 10. Éric aurait une vie meilleure, lui, elle le croyait. Tout ce qui leur restait de désir se tenant là, rassemblé là, à Fridière, Annette s'appliquerait, ne céderait pas aux aimables sirènes des pâtes sempiternelles et des pâtisseries sous coques de plastique transparent. Elle n'avait pas d'autre assurance que celle-là. Elle saurait tenir une maison et un budget. Elle craignait seulement que Paul, qui n'avait pas caché à Nevers la relative modestie de ses revenus, ne fût de surcroît conforme à la fâcheuse réputation de parcimonie attachée à sa corporation. L'argent avait été, avec Didier, un terrible sujet de lutte, les paies maigres et irrégulières étant trop souvent dévastées par d'orgées à séances de bistrot et autres ravageuses facéties. Au petit supermarché de Condat, Annette observa les trois caissières, comparant leur façon d'être et de faire avec ce qu'elle avait elle-même connu quelques années plus tôt, quand elle occupait l'autre côté de la caisse, anesthésiée, l'estomac noué,